Sealcast présente la revue de presse, thème du jour, Industrie Tech, avec Elena et Alex. Bonne écoute. Commençons par OpenAI, parce que c'est probablement le truc le plus structurellement nouveau. Selon Bloomberg, repris par MIT Technology Review, l'administration Trump a demandé à OpenAI de limiter la diffusion de GPT-5.6, avec une liste de premiers utilisateurs validés par le gouvernement. C'est la première fois qu'une entreprise américaine se voit imposer une restriction de release avant lancement. Ce n'est pas un export contrôle classique. C'est un contrôle d'accès en amont, côté usage.
Aujourd'hui, c'est journée tech un peu fourre-tout, et franchement, il y a de quoi faire. Au menu, l'administration Trump, qui demande à OpenAI de restreindre la sortie de son prochain modèle, IBM, qui sort une archi de puce en couche qui prolongerait Moore d'une décennie, la téléopération qui menace de rendre délocalisables des boulots qu'on croyait stubbornly locaux, et deux histoires drones, une de sauvetage en Australie, une militaire en Corée du Sud. Elena, par où on commence ?
Méthodologiquement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'a pas le critère de sélection. Government Approved Partners, ça peut vouloir dire Vetting Security, ça peut vouloir dire alignement politique, on ne sait pas. Et sans transparence sur les critères, on ne peut pas évaluer si le filtre est sensé ou arbitraire. Anthropic est dans une logique similaire de friction avec Washington, selon MIT Tech Review, donc ce n'est pas idiosyncratique à OpenAI.
Et la citation de Nathan Benesch dans le FT résume bien le truc. L'IA de pointe est construite par une poignée de boîtes américaines, sur sol américain, sous loi américaine, et ce que le reste du monde a le droit d'en faire peut changer un vendredi après-midi. C'est exactement ça la dépendance. On parle souvent du risque IA en termes existentiels, mais le risque concret là, c'est la souveraineté zéro pour quiconque n'est pas dans la liste approuvée par Washington.
Et au passage, le Guardian note que les data centers sont devenus la cible numéro un des contentieux environnementaux aux États-Unis. Énergie, eau, pollution de l'air. Ce qui nous amène bizarrement bien à l'article IBM, parce que la promesse de leur nouvelle archi, c'est précisément l'efficacité énergétique.
À ajouter au tableau, Apple et Xbox qui augmentent leur prix de plus de 20% sur certains produits, en blâmant le coût des puces dopé par la demande des data centers IA. Le Verge appelle ça Ramageddon. Donc la facture de la course à l'IA, elle est en train de retomber très concrètement sur les consommateurs qui n'ont rien demandé.
IBM annonce une architecture dite NanoStack, du CFET, Complementary Field Effect Transistor. Concrètement, on fabrique une couche de transistor, on dépose du silicium par-dessus, on fabrique une deuxième couche de transistor directement dessus, puis on connecte. Le chiffre annoncé, jusqu'à 50% de travail en plus à temps égal, ou 70% d'efficacité énergétique en plus par rapport à leur archi précédente. La particularité IBM, c'est que les transistors de la couche du dessus sont décalés par rapport à ceux du dessous, ce qui simplifierait le câblage.
Vas-y, raconte-moi, Acto.
C'est exactement la question. IBM ne fabrique pas. Ils vont devoir partenariser avec les fondeurs. Intel, Samsung, TSMC et IMEC travaillent tous sur du CFET en parallèle. Donc l'annonce IBM, c'est un papier de recherche avec un beau démonstrateur, pas une puce dans ton laptop l'année prochaine. Gambetta lui-même parle d'une décennie pour le déploiement en data center. Et il faut garder en tête, 70% d'efficacité énergétique en plus. CJ Paradigm Master, c'est Nasting Silver Summer Star. C'est le match né à G-Vans appliqué à Plia.
Et un analyste de Tech Insights dit que ça remet 10 à 15 ans sur la roadmap de Moore. Mais bon, c'est IBM Research, donc on est à quelle distance d'une vraie production?
Et la phrase clé est dans la bouche de Mark Graham, prof de géographie d'Internet à Oxford. La nouveauté, ce n'est pas le travail à distance. C'est le type de travaux qu'on peut désormais aspirer dans un marché du travail planétaire. Des tâches qu'on pensait stubbornly locales, coller des briques, conduire un engin, surveiller un magasin de nuit.
Exactement. Et c'est mon point politique du jour. L'efficacité comme alibi. On nous vend chaque saut techno comme une solution aux problèmes énergétiques, alors que ça nourrit la croissance de la demande. Bon, passons à un sujet où je veux ton avis parce que je trouve ça vertigineux. La téléopération. Singularity Hub raconte Builder X Robotics en Chine, des opérateurs qui conduisent des excavatrices depuis un bureau via 5G ou satellite. Au Japon, 300 convenience stores réapprovisionnés par des robots monitorés depuis les Philippines. Un chirurgien en France qui opère un patient en Inde l'été dernier.
Je nuancerai sur un point. L'argument ergonomique n'est pas faux. Faire conduire une excavatrice à une personne âgée ou en situation de handicap depuis un bureau avec café, c'est un gain réel d'accessibilité. La question, c'est qui capture la valeur, Si l'opérateur en télétravail à Manille touche un dixième du salaire de celui qu'il remplace à Osaka, le gain ergonomique est confisqué par la marge.
Et il prévient direct, on va voir débarquer les pressions classiques d'arbitrage du travail, contrôle et fragmentation. Traduction, on va payer un opérateur philippin 3 fois moins cher qu'un japonais pour faire le même job, avec en bonus 0 droit du travail local applicable. Le patron de Builderix dit qu'il veut sortir les ouvriers des chantiers dangereux. Ok, c'est sympa. Mais la logique structurelle, c'est l'arbitrage salarial à l'échelle planétaire sur du col bleu. Les cols blancs avaient déjà été délocalisés par Internet, là c'est au tour d'Emmanuel.
Enchaînons sur les deux histoires de drones, qui sont un bon contraste. Le Guardian raconte que dans le parc national de Kosciuszko en Australie, 2 randonneurs perdus ont été retrouvés en moins de 5 heures grâce à un drone à imagerie thermique et détection IA de Fire and Rescue Aneswith. Première utilisation opérationnelle de leur système de détection IA pour un sauvetage. L'inspecteur dit que ça a transformé un incident potentiellement de plusieurs jours en intervention courte.
Et il y a la question juridique. Si le chirurgien français opère un patient indien et qu'il y a une complication, on plaide où? C'est le même problème que les plateformes, mais avec un scalpel.
Le même outil, drone plus IA, qui sauve 2 randonneurs d'un côté et qui devient l'arme individuelle de 500 000 soldats de l'autre. C'est l'illustration la plus brute de la dualité technologique. Et le ministre justifie en citant explicitement les leçons d'Ukraine et du Moyen-Orient. Les drones low cost en grand nombre changent la nature de la guerre.
Et en face, toujours dans le Guardian, la Corée du Sud annonce qu'elle va former 500 000 militaires comme drone warriors. Le ministre de la Défense dit littéralement que chaque soldat doit pouvoir utiliser un drone comme arme personnelle secondaire. 11 000 drones commerciaux pour l'entraînement cette année, 60 000 d'ici 2029, plus 20 000 drones jetables de combat d'ici 2030.
Un système de mulleuse odeuse longue portée, le Kalugosk de Shed iranien la Russie utilise en Ukraine.
Et ça boucle avec notre premier sujet, le contrôle US sur les modèles d'IA. Si on contrôle les modèles de fondation, on contrôle aussi à terme la couche perception-décision des drones autonomes. Donc la restriction de GPT 5.6 aux partenaires gouvernementaux n'est pas qu'une histoire de chatbot, c'est aussi un levier sur la prochaine génération d'armement.
Ce que je trouve frappant, c'est la généalogie reverse engineering. Shahed iranien copié par les Américains en Lucas, recopié par les Coréens en Kalukas. Une arme conçue par un pays sous sanction devient le standard mondial de la munition rôdeuse en 4 ans.
J'ajoute juste une note méthodo. Sur IBM, comme sur les chiffres OpenAI, on est sur du communiqué d'entreprise. À surveiller dans les prochains mois, les annonces de fondeurs partenaires côté IBM et la liste des partenaires approuvés côté GPT 5.6 si elle est rendue publique. C'est là qu'on saura si les promesses tiennent.
Bilan du jour. La techno-souveraineté américaine se durcit. La facture de l'IA arrive chez les consommateurs via les puces. IBM nous promet 10 ans de rab sur Moore, mais probablement consommé par la croissance de la demande. Le marché du travail manuel devient planétaire via téléopération et le drone est définitivement l'objet politique de la décennie. On se retrouve demain.